Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui. Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes ?
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur ? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Comment allez-vous, chers amis ?
Très très bien. Et vous ?
Bah,
Guillaume,
pas mal, ça
Caroline.
Va.
Tout on va bene.
Ah, voilà. Petit indice.
Et
alors, au sommaire aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Anne-Marie ?
Je vais vous parler d'un produit issu d'un fruit exotique.
Ah, ça donne un indice. Puisque nous avons une assiette dans laquelle nous dégustons depuis quelques secondes.
Un quiz à l'aveugle.
C'est ça. Bon, nous verrons ça tout à l'heure.
Oui, et alors, donc toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais vous parler de bonheur.
Ah, très bien.
Tu es rayonnant, d'ailleurs.
Ah. C'est ça.
Je vous rappelle que la dernière fois, elle nous avait parlé de ses vacances et que le bonheur n'était pas loin.
Bon, et toi, Caroline, où es-tu allée chercher le bonheur ?
Eh bien, donc, je vais vous parler d'une petite virée en Italie.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bien, Anne-Marie, c'est parti. Alors,
oui.
De quoi parlons-nous ?
Eh bien, on va parler de
Qu'est-ce
ce que
nous
vous
mangeons
avez dans l'assiette, effectivement. Alors, est-ce que vous avez reconnu ou pas ? Alors, bon, pour les auditeurs, effectivement, j'ai préparé une purée à base de patates douces et j'ai donc ajouté un petit quelque chose.
Photo à retrouver sur Facebook. Hein,
ouais. Voilà, et alors il faut quand même voir que ça ressemble comme ça à un gratin de courge, plus ou moins, hein. Enfin,
oui,
ou une purée de courge.
Une purée de carottes.
Ouais. Oui, parce que la pâte à douce est de toute façon à cette couleur. C'est pas mon produit qui va modifier la couleur orangée.
Oui, c'est pas le produit qui est orange.
Non, non, c'est plutôt blanc. Ah. Bon, alors on y va ou pas ?
Bah oui, on y va.
Oui, oui.
Allez,
on fait que ça,
nous sommes impatients.
Nous mangeons et dégustons.
Il sent bon les vacances et le farniente. Alors pourquoi ne pas l'utiliser au quotidien, en cuisine, comme produit de beauté ou encore pour renforcer son système immunitaire ? Bien évidemment, je vais vous parler du lait de coco. Oh. Histoire d'appréhender avec sérénité l'automne et dans quelques mois, l'hiver. Et un atout non négligeable, le lait de coco se trouve dans toutes les épiceries et grandes surfaces pour un prix souvent dérisoire. Ça peut aller de 1 euro à 2,30 euros si vous achetez du lait de coco bio.
Il faut quand même savoir que Anne-Marie nous a sorti de son sac de course les petits échantillons de lait de coco. Voilà, donc ça tend vers le téléachat cette émission.
Bon, alors maintenant que je vous ai dit que dans cette purée il y avait du lait de coco, est-ce que vous le ressentez ou pas ? Un petit peu maintenant ?
Oui.
Comme quoi, hein. Bon, alors on va commencer cette chronique et je vais quand même vous dire d'abord ce qu'est le lait de coco, puisqu'il ne faut pas le confondre avec le jus de coco, appelé aussi eau de coco, qui se trouve dans le fruit, hein, n'est-ce pas ? Quand on achète une noix de coco, quand on casse donc cette noix de coco, ce qu'on trouve, c'est bien cette eau de coco en grande quantité, puisque le fruit peut quand même en contenir jusqu'à 1 demi-litre, un liquide sucré, transparent, rafraîchissant, hein, surtout lorsqu'il fait chaud et qu'il vient d'être juste extrait de la noix. De son côté, le lait de coco est un liquide laiteux préparé à partir de la pulpe de noix de coco qui est râpée finement, puis pressé dans un tissu qui sert de filtre. C'est pour ça que je vous disais, c'est issu du fruit, même si ce n'est pas le liquide en lui-même. Donc une autre méthode consiste à infuser le coco râpé dans de l'eau chaude. La décoction est filtrée afin d'en extraire avec de l'eau les graisses et la saveur. L'opération est renouvelée jusqu'à ce que la pulpe soit devenue insipide. Alors bien évidemment, nous autres, on va, comme je le disais tout à l'heure, dans les grandes surfaces et on achète soit en boîte de conserve, soit en boîte cartonnée notre lait de coco. Alors pour info, le lait de coco est riche en vitamine C, E, B1, B3, B5, B6, et en minéraux tels que le fer, le soufre, le sélénium, le sodium, le calcium, le magnésium et le phosphore.
Ah bah non, je t'ai plus.
Mais tout ça, on va le voir de toute façon un petit peu plus tard. Sachez également qu'on se sert principalement du lait de coco dans les pays du sud-est asiatique, hein, tels au Cambodge, en Thaïlande ou encore en Malaisie, mais aussi en Afrique, dans le Pacifique Sud et en Polynésie française. Il est alors utilisé dans la cuisine, comme condiment, par exemple, ou dans la recette du fameux cocktail de la piña colada, accompagnant le rhum et le jus d'ananas. Et nous rappelons évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour...
la santé.
Mais pas pour le bonheur. Hop, pardon.
Ça...
Ah, pas sûr, hein, quand même. Hein.
Enfin, je vous rappelle.
Il faut quand même parler de la boisson qui est sur la table aujourd'hui. Souvenez-vous, avant l'été, Caroline nous avait fait une chronique sur l'été et sur sa participation à un concours de vins régionaux. Et donc,
coup de cœur des femmes journalistes. Ouais,
donc, on vous en dira un peu plus peut-être à la fin de l'émission. Mais la bouteille est sur la table. Mmh. Promesse tenue.
Contrairement à d'autres dont on attend toujours la petite banane fluo.
Tout à fait.
Depuis 2 ans.
Bon.
Allez,
enfin, je vous rappelle que le cocotier est une plante exotique, une espèce de palmier qui est capable de produire entre 50 et 100 noix de coco chaque année.
Ah, pas mal quand même.
Il y a une saison pour la noix de coco ou...
Je t'avouerai que j'en sais rien. Il doit y avoir effectivement, comme les autres, je suppose, arbres fruitiers. Donc, mais je ne me suis pas penchée plus sur la question. Je suis navrée, Guillaume. Mais je me renseignerai pour la prochaine fois.
Non, mais parce que par rapport au produit, ça voudrait dire qu'il produirait sur une partie de l'année pour ensuite l'utiliser pendant toute l'année. Donc, c'est aussi un élément.
Mais il peut y en avoir dans plusieurs parties du monde aussi.
Bon, donc, le lait de coco, mais est-ce qu'il n'aurait pas aussi quelques vertus
Vu tout ce que tu nous as dit, sûrement.
Oui, forcément, voilà, exactement, avec tout ce qu'il possède hein, comme richesse en vitamines, mais ça, on va le voir. Effectivement, il possède de nombreuses vertus, à en croire d'ailleurs l'article d'Alexis Roger sur son site de Nature Alexis, un article qui était vraiment bien fait, et donc grâce auquel, effectivement, j'ai pu faire cette chronique, même s'il y a beaucoup de sites qui parlent aujourd'hui du lait de coco.
Et il y a énormément de recettes maintenant qu'on trouve avec du lait de coco.
Effectivement, du coup, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Il y a aussi l'huile de coco, alors je ne pouvais pas parler de tout, mais l'huile de coco aussi qui est vraiment très à la mode en ce moment. Pareil, on s'en sert dans la cuisine, comme produit de beauté et même pour nourrir, je veux dire, le cuir, le cuir par exemple de chaussures ou de sacs. Voilà. Mais là, on va rester sur le lait de coco. Alors, effectivement, ce monsieur, hein, Alexis Roger, donc, nous explique que grâce aux acides lauriques du lait de coco, ce dernier serait un aliment capable de combattre certaines infections, telles la rougeole ou l'herpès. Par ailleurs, le lait de coco est riche en magnésium, comme je vous le disais. Une tasse de lait de coco contient 89 mg de magnésium. Or, le magnésium participe à la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui a pour conséquence de diminuer la pression artérielle. Le magnésium provenant de la noix de coco possède également des propriétés apaisantes qui aident à combattre le stress naturellement. Donc, si vous êtes anxieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout lorsqu'il ne fait pas très beau en automne et en hiver, quand on ne va pas bien. Eh bien, on boit du lait de coco.
Et alors, est-ce que ça aurait aussi des bienfaits sur le cholestérol ?
Malgré son taux relativement élevé en graisse saturée, 10%, le lait de coco peut réellement aider à réduire le taux de cholestérol si vous êtes habitué à la cuisine au beurre et si vous aimez utiliser les produits laitiers dans vos recettes culinaires. Le lait de coco augmente certes le taux de cholestérol général, mais l'acide laurique qu'il contient augmente le HDL ou le bon cholestérol, car vous savez qu'on, quand on parle du taux de cholestérol, on parle surtout du mauvais taux de cholestérol. Or, il existe aussi du bon cholestérol. De plus, le lait de noix de coco renferme 6 acides gras essentiels de type oméga 3 et 6. Donc, pour rappel, les acides gras de type oméga 3 et 6 participent à une multitude de processus importants, la constitution et l'intégrité des membranes cellulaires, le bon fonctionnement des systèmes cardiovasculaires, cérébral, hormonal et inflammatoire. La consommation et l'absorption d'oméga 3 et d'oméga 6 permettent donc au corps de fabriquer des substances primordiales pour son bon fonctionnement. Donc, vous voyez, c'est bon pour le corps de consommer régulièrement du lait de coco.
Mais alors, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques ou qui ne supportent plus le lait de vache. Est-ce que c'est possible de remplacer l'un par l'autre ?
Alors, j'ai surtout envie de te dire qu'effectivement, pour ceux et celles qui ne peuvent pas boire du lait de vache, hein, qui sont intolérants au calcium, mieux vaut effectivement boire du lait de soja, par exemple. Et clairement, non, on ne peut pas remplacer le lait de coco, enfin le lait de vache par le lait de coco, tout simplement parce que contrairement au lait de vache, le lait de coco n'est pas une bonne source de calcium. Une tasse de lait de vache contient 300 mg de calcium, alors que le lait de coco n'en contient seulement que 38 mg. Environ.
Donc, on a donc 10 fois plus dans le lait de vache.
Exactement. Donc, c'est pour ça que, bah, surtout bon, pour les enfants, mieux vaut boire du lait de vache. Et encore une fois, bon, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai qu'on conseille souvent le lait de soja ou le lait d'amande aussi, je crois. Par contre, le lait de coco est particulièrement riche en phosphore. Avec 240 mg de phosphore par tasse, cet aliment contribue à la construction et à la solidité des os.
Ah, intéressant quand même, hein.
Et alors, tu nous disais que c'était pas très très, enfin que c'était pas mal pour le cholestérol.
Oui.
Mais si on est au régime, est-ce que le lait de coco c'est compatible ?
Parce que le lait de noix de coco contient des graisses saturées, ce que tu viens de dire, Guillaume, il est souvent boudé par des personnes qui veulent perdre du poids. Eh bien non, vous pouvez en manger même si vous faites un régime. Puisqu'en raison de sa teneur en fibres, le lait de coco permet la vertu de rassasier plus longtemps la personne, possède la vertu, pardon, de rassasier plus longtemps la personne qui le consomme. C'est une des raisons pour lesquelles cet aliment peut aider à contrôler le poids. Un petit peu lorsque vous mangez une pomme, vous avez l'impression que voilà, vous n'avez plus faim et que vous pouvez attendre le dîner et non plus de goûter pour rassasier votre faim. Vous l'aurez compris, quand on soit enfant ou en surpoids, on a tout intérêt à ajouter du lait de coco à son alimentation. C'est vrai aussi pour les seniors, puisque le lait de noix de coco contient du sélénium. Le sélénium étant un antioxydant qui soulage les symptômes de l'arthrite. Le sélénium diminue en effet le risque d'inflammation des articulations.
Alors est-ce qu'on se sert, tu nous l'as déjà dit un petit peu, mais quelles sont les autres utilisations finalement du lait de coco en dehors de la cuisine ? Tu nous as parlé tout à l'heure de cosmétiques, quel est-il ?
Alors effectivement, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir du lait de coco chez soi parce qu'on peut s'en servir vraiment un petit peu partout. Alors,
c'est pour ça que Anne-Marie maintenant trimballe sa petite...
Voilà, dans mon sac à
main.
C'est vrai que normalement, c'était, je me disais, le lait de coco, c'est plutôt dans la cuisine ou la salle de bain. Mais là, comme quoi, c'est même dans mon sac à main. Mais bon, effectivement, exceptionnellement, c'était pour vous présenter cette chronique dans cette émission. Alors, appliqué directement sur la peau, le lait de coco est utile pour l'hydrater et la garder douce et lisse. Sa teneur en matière grasse bloque l'humidité. Il suffit d'appliquer une fine couche de lait de coco sur le visage, propre, évidemment, pendant plus de 15 minutes, puis vous rincez à l'eau claire.
Mais alors, le lait de coco qu'on trouve en brique ?
Oui, c'est exactement la même chose. Alors, effectivement, moi, j'ai acheté là une petite brique où je vois lait de coco cuisine bio. Mais sinon, en fait, vraiment, tu achètes du lait de coco et c'est la même chose. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Hein, rayon beauté, tu n'as pas ça. Alors, voilà, donc je disais qu'effectivement, l'application du lait de coco sur la peau est un soin anti-âge naturel qui améliore l'élasticité de la peau en raison de sa teneur en cuivre et en vitamine C. Il prévient l'apparition des rides, puisqu'on hydrate bien la peau, ça va de soi. Le cuivre et la vitamine C conservent la souplesse et l'élasticité de la peau et des vaisseaux sanguins, ce qui ralentit le processus de vieillissement de la peau. Donc, vous voyez, finalement, même les maisons de retraite pourraient investir dans le lait de coco. Le lait de coco serait également un démaquillant naturel. Et là, je sens que Guillaume est intéressé, puisque la fois dernière, souvenez-vous-en, il nous avait parlé de mascara au concombre. Et bien, lorsque tu te maquilles, il faut te démaquiller.
Au lait de coco.
Je te conseille de prendre du lait de coco mélangé à de l'huile d'olive. Alors, selon les conseils, je ne l'ai pas fait, mais selon les conseils que j'ai pu lire, il faut mélanger une dose de lait de coco avec une dose double d'huile d'olive, à savoir voilà, le double du lait de coco.
Bah, voilà. Faut que tu testes, Marie.
Mais je vais tester.
Ça doit être un peu gras quand même, non ?
Oui, c'est ça.
Ah bah oui. Oui, mais en même temps, c'est pas grave. Tu prends le coton et puis après, tu rinces à l'eau claire. Donc,
bien.
Alors, je crois qu'il faut que tu testes. Hein.
Oui, moi aussi.
Alors, par ailleurs, telle la pomme de terre crue sur un coup de soleil, vous savez, grâce à l'amidon, quand vous avez un coup de soleil, vous passez de la pomme de terre crue sur vous. Le lait de coco pourrait apaiser aussi la sensation de brûlure et hydrater par la même occasion la peau abîmée. Alors, évidemment, en ce moment, on ne va pas pouvoir vraiment expérimenter ce lait de coco puisque l'été est terminé. Mais bon, voilà, sachez que pour l'été prochain, vous pourrez vous mettre du lait de coco sur le corps pour apaiser donc cette sensation de brûlure. Enfin, les nutriments ainsi que les matières grasses contenues dans le lait de coco peuvent se convertir en un soin capillaire. Pareil, je ne l'ai pas testé, mais ça me donne bien envie de le faire. Si vous avez les cheveux cassants, déshydratés et ternes, donc optez pour un soin à base de lait de coco. Toujours pareil, vous achetez votre petite brique, vous mettez du lait de coco, vous laissez appliquer le lait de coco sur vos cheveux pendant à peu près une heure ou deux. Mais attention, si ce masque peut accélérer la croissance des cheveux, il peut aussi faire dégorger les colorations. Alors, je voyais une vidéo sur YouTube, pour ne pas nommer ce site. Eh bien, il y avait une jeune femme qui avait testé le lait de coco en masque, mais un peu trop régulièrement, apparemment. Et ça avait eu des effets inverses. Finalement, ça les avait plutôt séchés qu'autre chose. Ils étaient devenus plus secs. Donc, voilà, je pense qu'on utilise le lait de coco pour les cheveux, mais une fois, de temps en temps.
Bon, et toi, t'en fais quoi du lait de coco dans ta vie quotidienne? À part le trimballer dans ton sac à main.
À part le trimballer dans ton sac à main. C'est vrai que eh bien, je m'en sers beaucoup en cuisine ces derniers temps. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'avant, je ne l'utilisais pas du tout. Et puis, voilà, ça doit être...
Une mode.
Voilà, effectivement.
Une envie.
Oui. T'as découvert ça comment?
Par ma belle-mère.
Ah, les belles-mères
qui utilisait, d'ailleurs, c'est ma recette, bon, que j'ai changé un petit peu, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, il l'utilisait en cuisine, enfin, qui m'a montré une recette. Et effectivement, de suite, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, maintenant, je m'en sers beaucoup. Alors, avec des poireaux, par exemple. Parce que c'est vrai qu'autant la partie blanche des poireaux, on peut manger la partie blanche en salade, c'est très bon. Autant la partie verte. C'est vrai que c'est un goût très prononcé et je trouve qu'avec le lait de coco, ça adoucit vraiment et c'est beaucoup plus agréable lorsque vous mangez les poireaux.
Donc tu fais ta vinaigrette au lait de coco ?
Non, c'est quand je fais cuire, enfin je fais cuire en gratin. Oui, voilà, plutôt en gratin effectivement au four. D'accord. Moi, je parle pas de la partie blanche où tu peux la manger froide ou chaude. Là, c'est vraiment la partie verte. Effectivement, je la fais cuire et puis ensuite en gratin avec du lait de coco, c'est vraiment bon. Tu peux y mettre aussi des pommes de terre. Enfin, tu fais un gratin de légumes.
En fait, tu l'utilises à la place du lait ou de la crème.
Exactement, exactement. Avec du poisson aussi, hein, tel du saumon mi-cuit, mi-cru, en papillote, c'est vraiment excellent. Et puis avec de la viande. Donc voilà, alors je voulais vous donner une petite recette que j'aime bien, c'est celle du veau de coco. Alors c'est pas la même hein, que celle
c'est
sur...
qui coco.
C'est pas la même que la recette que propose par exemple Marmiton. J'ai vu que Marmiton rajoutait du gingembre, de la cannelle. Moi, je fais pas ça. Alors pour le veau coco, donc je fais cuire. Hein, bon, là, je vous ai mis dans une cocotte en fonte parce que moi j'aime bien, mais après vous mettez ça dans ce que vous voulez. Donc mon veau coupé.
Non, rien ne vaut la cuisson dans la cocotte en fonte.
C'est ta recette. Même. Assume.
Oui.
Assume tes instruments.
En plus, j'assume la cuisson dans la cocotte en fonte.
C'est ça. Donc, vous coupez le veau en petits morceaux, vous le faites revenir, donc évidemment, dans de l'huile. Dès que c'est revenu, vous laissez mijoter le veau avec du lait de coco. Donc, pareil, c'est toujours une petite brique. Hein, je crois qu'elle fait celle-ci 200 millilitres, c'est à peu près toujours pareil. Donc, vous faites mijoter la viande avec du lait de coco, mélangé à du curry. Hein, vous l'avez, le lait de coco, vous le mélangez avec du curry, c'est pas mal. Et un petit peu de poivre, évidemment. Quand la viande est cuite, ajoutez des champignons. Donc, pareil, hein, normalement, vos cocos, il n'y a pas de champignons, mais moi, j'aime bien en rajouter. Une préparation que je sers avec du riz, cuit à part, évidemment, donc dans une autre casserole. Et si vous avez un petit budget, parce que c'est vrai, le veau, ça coûte cher, remplacez-le par des escalopes de dinde ou de poulet, par exemple. Alors, il y avait aussi une autre recette. Effectivement, quand j'ai acheté le lait de coco, j'ai vu qu'il y avait une recette, mais alors là, pour le coup, sucrée. Je vous ai parlé d'une recette salée, donc je vais quand même vous en donner une sucrée, si vous le voulez bien.
Ah bah oui.
J'ai pas eu le temps de vous préparer cette recette, mais...
On le regrette fortement.
La prochaine fois, allez. Donc là, c'est riz au lait, mango, citron vert. Donc là, on nous propose de faire chauffer le lait jusqu'à ébullition dans une casserole, ajouter le riz, le sucre, évidemment puisque c'est du sucré, et faire cuire à feu très doux pendant 20 minutes. Ajouter alors la moitié du lait de coco, le zeste et le jus de citron vert. Lorsque le riz est cuit, verser l'autre moitié du lait de coco et laisser refroidir. Mettre alors la préparation dans 4 verrines en intercalant de fines lamelles de mangue fraîche avec 2 couches de riz au lait.
C'est effectivement, c'est quand tu veux.
Hein. C'est la prochaine fois, hein, dans 15 jours.
Voilà. Et sachant que c'est aussi le lait de coco, un des ingrédients du fameux flan coco traditionnel antillais.
Bah, on le retrouve de toute façon beaucoup de recettes de cuisine exotique, on va dire, entre guillemets. Hein.
C'est sûr.
Très bien, tu nous as quand même apporté des petites gourmandises à la noix de coco.
Bah oui, quand même, pour rester fidèle à ma thématique.
C'est parfait.
Ah là là, c'est bien. Donc Anne-Marie, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter à la suite de cette chronique très coco-ifiée ou coco-iatée, je ne sais pas comment on peut dire.
Alors le lait de coco, ça fait souvent penser aux vacances. Et qu'est-ce qu'on a entendu pendant ces vacances, notamment bien sûr, on a entendu Homeless de Marina Kaye, donc je vous propose d'écouter Homeless.
Alors, Anne-Marie, aujourd'hui, il y a un jeu Alors, est-ce que tu as nos questions? Alors, déjà, il faudrait nous dire quel est l'enjeu de ce jeu. C'est de, donc de gagner des places.
De gagner des places pour un spectacle extraordinaire.
Voilà, qui s'appelle...
Le 8 octobre.
Qui aura lieu à la Halle Saint-Jean de Mende, l'après-midi, et il y aura une session de rattrapage le soir.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant la question, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance,
allez,
nous écoutions le petit jingle. Alors voilà, vous avez été mis en condition avec ce petit jingle. Alors,
peux-tu donc, nous dire... extrait du célèbre musical de Narbonne, Les Folies Berchères.
Voilà, Berchères, parce que Berchère. C'est la scène dans laquelle elle a été créée à Narbonne. Et ouh. Alors, c'est donc un spectacle...
Donc, un spectacle, donc, comme on le disait, le jeudi 8 octobre, pour deux représentations exceptionnelles à 14h45 et 20h30 à la Halle Saint-Jean de Mende. Et donc, Guillaume, on va poser une question, c'est ça, pour gagner des places, je crois.
C'est ça, tout à fait. Et donc, pour gagner, il vous faut répondre donc, soit sur nos réseaux sociaux, soit à l'adresse internet redac@48fm.org, à la question que tu vas poser, Anne-Marie.
Le French Cancan est une forme de spectacle musical et chorégraphique apparu à Londres. Mais en quelle année ? En 1768 ? En 1868 ? Ou en 1968 ?
Bonne question et on verra les réponses à la toute fin de notre émission, bien entendu, parce que je vais quand même donner la réponse.
Pour aider nos auditeurs préférés de notre émission.
Il y aura des questions plus simples après.
Alors, non mais on n'était pas nés. Donc tu as le choix entre 1768 ou 1868, puisque 1968 forcément.
Je ne sais,
dire...
Anne-Marie.
Voilà.
Je
donc sais. C'est pour ça que j'ai dit voilà effectivement, c'est forcément entre 1768, enfin ou 1768 ou 1868.
Allez, c'est parti, un petit jingle et c'est reparti pour notre émission.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Alors Guillaume, c'est à toi maintenant de faire ta chronique et tu veux nous donner du bonheur.
Oui, bah oui, parce que je vais vous reparler. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu vie ma vie avec Caroline qui nous racontera son épisode à Milan.
Bah voilà, ah bah moi... je l'avais pas dit, Guillaume.
Ah, bah si, tu
l'as vu. Tu viens de nous spoiler, j'ai dit voyage en Italie.
Ah, pardon.
C'est ça que disent les jeunes, hein.
C'est ça.
Ça, ça fait vieux, par contre.
Ouais, bah je viens de dire mon âge, donc forcément, en même temps, je peux difficilement me faire passer pour une petite jeunette.
Non, mais comme ça, je pourrais te chambrer dans ma chronique tout de suite après.
Chambre-moi. Voilà, Anne-Marie s'en étouffe.
C'est ça. Alors, ben voilà, on a perdu Anne-Marie. Donc, ben voilà, j'ai eu la grande joie vendredi dernier d'animer le Sommet du Bonheur. Sommet du Bonheur qui s'était mis en place dans le cadre de la Startup et dans le Pré, concours voilà, de Startup qui a eu lieu donc, le week-end dernier à Saint-Rome-de-Dolan. Vous avez sans doute pu écouter sur 48FM l'émission spéciale lundi soir et mercredi midi. Voilà, donc,
et comment ça s'est passé ?
Alors le Sommet du Bonheur, bah, c'était l'occasion, avant de rentrer dans ces deux jours de foisonnement autour de start-up, c'était de se dire que finalement il était possible d'avoir du bonheur à entreprendre. Alors c'est vrai qu'on pense, quand on pense bonheur, on pense plutôt amour, célébrité, richesse, etc. Plutôt orienté dans les aspects pas forcément professionnels de sa vie. Et au final,
et bah, c'est une erreur.
Et ben bah, oui. Et au final, bah, voilà, c'est un peu ce qui a été démontré. C'était cette possibilité d'avoir du bonheur finalement dans l'entreprise. Alors avec différents aspects. Entreprendre pour le bien du territoire, pour le bien de la planète. Donc ça aussi, c'est d'une certaine façon, c'est une forme de bonheur. Mais aussi, à l'intérieur d'une équipe, c'est aussi mieux se connaître finalement, se connaître soi et mieux connaître aussi les capacités de ses collaborateurs pour finalement associer les compétences et faire en sorte que la vie dans la société et que le projet finalement qu'on souhaite défendre se passe au mieux et se développe au maximum. Donc c'était un message assez sympa qui a été diffusé ce jour-là et puis après qu'on a concrétisé avec une start-up dans le pré, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de beaux projets qui ont abouti.
Mais alors ce sommet, c'était quoi ? C'était une conférence ? C'était un échange ?
C'était une conférence avec Renaud Gaucher, le premier intervenant, qui est économiste du bonheur. Donc il y a tout un travail de recherche dans l'économie du bonheur, notamment aux Pays-Bas, à Rotterdam. Et puis ensuite il y avait un intervenant de la fabrique des territoires innovants. Pardon ?
Il fume un peu, non, aux Pays-Bas pour s'aider, non ?
Oui, peut-être. après François Botelier de Poix, directeur de la fabrique des territoires innovants, lui insistait sur cette dimension collaborative et sociale sur le territoire, donc le bonheur, l'économie du bien commun plutôt. Et puis on a eu une table ronde avec un peu les organisateurs aussi de cette start-up et dans le pré et comment ils placent le bonheur dans leur activité. Et ça a été aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil au vainqueur de l'édition 2013 de la start-up et dans le pré en Lozère, avec la start-up Ciel Montradi.
Qui
est connu dans la France entière et qui expérimente chez eux cette notion de bonheur et de complémentarité des profils aussi dans l'entreprise, mais aussi apporte du bonheur, de la verdure, des temps de convivialité, de rencontres dans l'entreprise avec ses potagers finalement de bureaux qui sont support d'une animation et de la rencontre et de la collaboration. Donc c'est vrai que c'est une sympathique initiative qui était proposée là.
Et il y avait pas mal de jeunes justement heureux de pouvoir qui allaient créer.
Tout au long du week-end, c'était beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail aussi pour les candidats.
Mais beaucoup de personnes justement, beaucoup de candidats ?
Oui, il y avait 50 candidats, 40 coachs qui sont venus bénévolement accompagner les candidats et apporter leur conseil, leur vision, des projets. C'était une très très belle opération. Et j'étais très content, moi, d'y être pour 48FM. C'était une certaine fierté aussi de participer à un aussi beau projet.
Tu es tout heureux. Hein.
Je suis très heureux. Ça, vraiment, il n'y a aucun problème.
Presque, on dirait que ça t'a fait plus de bien que les fameuses vacances à Royan.
C'est ça. Mais alors, forcément, sortait aussi la semaine dernière un article du magazine Néon. Aussi sur la playlist du bonheur, ça s'appelait ça. Alors ça faisait écho, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière on avait parlé des fameuses chansons sélectionnées par l'UNESCO, je crois, ou par l'ONU, Et donc là, il y a un scientifique néerlandais, un de plus, qui a établi qui a établi une formule qui détermine le potentiel heureux de chaque chanson. Ce sont des chansons qui devraient nous donner le smile à tous les coups. Alors, on va tester, puisque vous en aurez quelques-unes dans cette chronique.
Et d'ailleurs, Guillaume, est-ce que toi, tu as une chanson qui te rend heureux ?
Je vous l'ai déjà fait passer la semaine, il y a 15 jours.
Oui, mais si on n'était pas là.
Le tournesol de Nana Mouskouri, quand même.
Pense aux auditeurs
qui nous ont manqué.
N'écoutent pas non plus tous les
jeudis. En plus, on n'était pas là la semaine dernière.
Ils ont tort.
Quand même 3 semaines, Guillaume.
C'est vrai.
Donc, t'as la chanson qui te rend heureux.
Non, c'était pour... Je sais pas, comme ça... Mais bon, le tournesol m'avait rendu heureux pendant mes vacances à Royan.
Très bien. Et toi, Caroline ? T'as une chanson qui te rend heureuse ou...
Oh ben il y en a beaucoup.
Bon.
Donc
c'est clair, limpide.
Donc Jacob George.
Et toi Anne-Marie, on ne te demande pas. Mais...
Bah beaucoup aussi. Voilà.
Ouais, non mais.
Non mais voilà, c'est voilà. Bon, donc Jacob Jolige, qui est chercheur en neurosciences à l'université néerlandaise de Groningen, a élaboré une équation mathématique pour déterminer quelle chanson nous rendait heureux. Et donc, pour nous donner la banane, il y a 3 ingrédients nécessaires dans la chanson du bonheur. Cet indice qu'il calcule, c'est le FGI pour Feel Good Index. Donc, ce sont des paroles positives.
C'est barré quand même, hein.
un tempo minimum de 150 battements par minute.
C'est surtout que ça tombe sous le sens.
Et des notes en gamme majeure. Voilà. Donc,
c'est très étonnant, oui.
Oui, c'est très étonnant. Le docteur Jolidge a appliqué sa formule à 126 chansons qui sont sorties ces 50 dernières années. Et l'a donc établi un top 10 qui rend, des chansons qui rendent le plus happy et une liste des chansons heureuses par décennie. Bah voilà, moi je vais vous proposer justement de, par décennie, découvrir un petit peu ces chansons. Voilà, et donc on va voir ces chansons qui nous font du bien, sans doute un petit peu. Et donc on va commencer par les 60s. Hein,
Il fumait aussi beaucoup.
Alors vous allez...
Cette émission n'est pas une apologie.
Non. Alors voilà, et donc c'est les Beach Boys avec Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une chanson du bonheur?
Oui, enfin c'est une chanson sympathique maintenant.
Oui, c'est une chanson heureuse.
Voilà, oui, maintenant oui. Est-ce que si je suis déprimée, est-ce que ça va me rendre heureuse? Je sais pas, mais en tout cas c'est une chanson qu'on aime bien.
Classement pour l'année 60, pour les années 60, validé donc.
Oui, oui. Enfin, bah, en même temps tu ne nous en proposes qu'une.
Non, bien évidemment, il y aurait UR et Les sons entrer le soleil, ça m'aurait plus emballé.
Eh ben voilà. Bon, alors on passe aux années 70 et cette fois c'est Queen avec Don't Stop Me Now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Bon, alors, est-ce qu'on est d'accord avec le classement années 70?
Oui, ça va.
Ça va, c'est bon, c'est le bonheur. Ok.
Bon, j'ai pas le Nirvana, mais bon.
Bon, donc on passe aux années 80 avec Billy Joel et Uptown Girl.
C'est bien parti là, on dansait, Guillaume, tu nous coupes là comme ça.
Là, on était sur la table.
Parce qu'on était dans les années 80.
Ah oui, mais c'était le bonheur, justement.
Et oui, mais maintenant, c'est les années 90.
Et oui, et oui. Et donc, c'est Robbie Williams avec Let Me Entertain You. Pas mal, Robbie Williams, non?
Here, now scream. I'm a
Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce qu'on valide?
Que le chanteur est très mignon, mais voilà.
Ouais, ouais. Non, moi, c'est pas...
C'est peut-être lui qui rend les gens heureux, plus que...
Ou fantasme de lui, peut-être.
Plutôt.
Bon, allez, on continue. Alors là, plus difficile, quand même. Top Loader avec Dancing in the Moonlight.
Oh, mon Dieu.
Vous allez voir,
c'est un hommage à la lune rousse oui. orange de cette nuit, de la nuit de lundi de début de semaine.
Voilà, vous avez bien compris que nous avions enregistré cette émission.
Et voilà, je m'en tenais pourtant. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and
pas, ouais, très connu.
Non,
hein.
Pas très connu, non. Drôle de, pas drôle du tout de mousse, c'est néerlandais quand même. Hein.
Et peut-être que l'échantillon finalement de 126 chansons mériterait d'être un petit peu plus important pour que ça soit un peu significatif et qu'on puisse s'y intéresser. Voilà, bon, c'est donc globalement, je crois qu'on valide pas trop hein, ce classement et cette formule. Hein.
Non, mais je crois aussi que finalement, ce sont des chansons... Il n'y en a aucune en français, ce qui est normal. Mais peut-être que nous, c'est vrai, on aurait fait peut-être plus un classement avec des chansons françaises et des chansons liées aussi à notre vie, notre parcours. C'est parce que c'est quelque chose aussi de très subjectif.
C'était la chanson préférée, l'avant-dernière chronique d'Anne-Marie.
Oui, tout à fait.
Donc, pour moi, c'est subjectif et il n'y a pas de formule réelle. Enfin, voilà.
Bon, alors avant...
En dehors de ce que tu disais tout à l'heure, que c'est vrai que les chansons qui ont un certain tempo et tout...
Oui, mais sont, ça, voilà, ça tombe sous le sens.
Les tonalités sont plus entraînantes, forcément.
Ça tombe sous le sens.
Et plus joyeuses que d'autres.
Mais après, il y a une thématique qui va peut-être nous faire plus réagir qu'une autre.
Donc, complètement, oui.
Voilà.
Bien, ben voilà, je vous propose quand même de nous quitter avec la sélection reçue de ce scientifique pour l'année 2000, pour les années 2010. Vous allez voir, c'est un peu une évidence. Je suis désolé, mais bon. Ah. Avec le bonheur, c'est quand même... je pouvais difficilement m'en passer, donc c'est parti. Happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Bien, Anne-Marie, c'est le moment quiz.
Oui, alors on rappelle peut-être ce pourquoi on joue.
Ah bah oui, rappelons-le.
Caroline,
tu veux que je remette un petit coup de...
Allez, oui, un petit coup, Guillaume.
Bon, alors les Folies Berchères, Anne-Marie.
Oui, alors on
rappelle qu'il sera à Mende, donc le jeudi 8 octobre. En matinée à la Halle Saint-Jean et en soirée.
Non, pas en matinée, Caroline.
Ça s'appelle une matinée l'après-midi.
Ah, pardon.
Oui, mais oui, c'est oui, vrai non, que...
Enfin, on va peut-être pas non plus induire en erreur les auditeurs.
Si,
on va peut-être leur dire quand même que c'est à 14h45, donc l'après-midi.
C'est précis. Hein.
N'est-ce pas ? Et puis donc le soir à 20h30 à la Halle Saint-Jean, donc demande. Alors, une petite question ?
Allez, une petite question.
Quelle célèbre actrice américaine a joué dans le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann en 2001 ? Était-ce Nicole Kidman, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston ?
Moi, je crois que je sais, mais bon, on n'a pas le droit d'aider l'auditeur.
Non.
Même celui qui adore notre émission actuelle est lui.
Exactement. On n'a pas le droit, mais Guillaume, tu sais répondre à cette question ?
Oui.
Eh bien, alors, tu appelleras la rédaction de 48FM, c'est ça ?
Non, il ne faut pas appeler, il faut envoyer un message par mail à redac@48fm.org
ou sur les réseaux sociaux,
sur Facebook et Twitter.
Donc, tu écriras un petit mail pour donner
c'est
ta
ça.
Réponse.
Mais peut-être qu'il n'a pas du tout envie d'aller au spectacle, Guillaume. Il a l'air d'être très heureux comme ça, sans spectacle.
Rappelle-nous les trois...
Parce que le bonheur était dans le pré, je vous rappelle.
Rappelle-nous les.
Alors,
trois.
La question, c'était quelle célèbre actrice américaine a joué dans le film Moulin Rouge en 2001 de Baz Luhrmann ? Était-ce Nicole Kidman, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston ?
Bon, la dernière, elle faisait Friends à la même époque, elle pouvait pas tout faire pour aider notre auditeur quand même.
Et la deuxième, elle avait piscine sans doute. Hein.
Bah, sûrement. Aquabike.
Ouais, s'occuper des enfants.
On sait pas.
On sait pas.
Ou de son Brad préféré.
Peut-être. Pas à cette époque-là.
Non.
Non. Bon, alors, bon.
Bon, allez.
Une bon, petite cher auditeur, on sent que vous êtes un peu perdu dans tout ça.
Et on passe à la troisième partie d'Actuel et lui, parce que sinon, je crois que sinon, on va avoir
Faites
vraiment
votre
du
valise,
mal.
Faites nous allons voyager.
C'est parti.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, c'est le moment de Caroline. Alors, Caroline, tu nous as dit que tu étais allée en Italie.
Oui, alors j'aurais aussi pu vous dire que j'avais fait un tour du monde.
Eh oui.
Bah oui. Puisque je suis donc partie à Milan à l'Expo Universelle 2015. Milano 2015. Alors, une belle aventure, je vais dire, avec bien sûr... des choses plus ou moins positives et des choses plus ou moins négatives, mais quand même, malgré tout, j'avais cette curiosité d'aller, d'être spectatrice et d'une expo universelle. C'est quand même pas tout le temps, c'est pas toujours près de chez nous. Alors,
oui, bon, surtout que les prochaines ne seront pas très proches. Après
voilà, exactement. Alors ça peut être très intéressant d'aller à l'autre bout du monde pour en voir une. Enfin là, ça me semblait quand même plus simple d'aller... en Italie, même si ça fait quelques heures de route, c'est quand même à côté de chez nous. Hein, voilà, ça reste en Europe, c'est quand même facile d'accès. Et j'avais, moi, en tête un petit peu cette idée qu'on peut avoir des expositions universelles des débuts, on va dire, hein, la fin du 19e siècle. Ça devait être fabuleux de pouvoir découvrir le monde comme ça, au pied de chez soi. À l'époque, je rappelle quand même qu'on ne voyageait pas comme on voyage maintenant et que ça devait quand même avoir un certain exotisme. Donc voilà, je me disais qu'il fallait garder peut-être un peu cette naïveté, cette curiosité de cette époque-là pour s'y rendre. J'avais quand même un peu d'inquiétude en me disant justement maintenant que le monde est à notre portée, qu'est-ce que ça pouvait donner une expo universelle au 21e siècle ? Alors, je dois dire que voilà, j'ai eu un peu deux moments dans cette visite. Je suis restée deux jours. Je pense que c'est une distance un peu moyenne pour l'ensemble des visiteurs. C'est un peu court pour tout voir, hein, soyons tout de suite clairs. Mais bon, voilà, c'est quand même L'entrée n'est pas donnée.
Alors d'ailleurs, elle est à combien ?
Alors l'entrée est à 39 euros la journée, 67 euros les deux jours.
C'est peut-être bien de le préciser parce que je crois que l'Expo universelle de Milan se termine le 31 octobre.
31 octobre, donc on reste donc
tout
un
le mois d'octobre pour vous y rendre.
Franchement, bon voilà, c'est quand même un voyage sympa qui permet donc de faire une espèce de tour du monde sans bouger de Milan. C'est quand même.
Puisqu'il y a, je crois, 140
pays qui 145 participent.
Pays,
trois organisations internationales, plus quelques autres stands divers. Donc c'est vrai que, bon, déjà 145 pays, ça fait un sacré tour du monde. Hein. Voilà. Alors donc je vous disais, un peu partagé, une première journée où j'étais un peu... on sort de sa Lozère, 70 000 habitants, on se retrouve dans une queue le matin, 40 000 personnes, la moitié de la Lozère. Déjà, il y a un petit choc.
Tu connais personne.
Ouais, tu connais personne, il y a un petit choc d'entrée. Et puis c'est vrai que ça peut paraître un petit peu au démarrage comme ça. J'avais pas trop préparé ma visite non plus, donc je conseille vraiment à ceux qui iraient là dans ce dernier mois de bien préparer leur visite. Ça permet, je pense, de pas trop perdre de temps, puis de bien de savoir où on va. Alors moi, je ne l'avais pas fait, donc du coup, c'est vrai qu'en pénétrant dans ce, on peut appeler ça ce grand bazar, cette grande foire, ça donne l'impression d'une grande foire. Voilà. Le deuxième jour, avec un peu plus de connaissances du terrain et de la façon dont c'était organisé, m'a paru plus intéressante. Et en plus, j'ai été plus attentive au thème de l'Expo 2015, puisqu'il y a un thème à chaque fois, et que le thème de Milan, c'est nourrir la planète.
Oui, un thème qui était cher en plus.
Oui, voilà, en plus, voilà, un thème de réflexion qui quand même nous concerne tous, et c'est vrai qu'il m'est cher. Donc voilà, la deuxième journée, j'ai été plus attentive à ça, et du coup, j'ai, je pense, mieux apprécié cette deuxième journée.
Mais beaucoup d'échos que j'ai eus justement sur ce thème, c'est qu'il était finalement assez peu présent et qu'on était plutôt dans le tourisme gastronomique plutôt que dans la question de nourrir la planète.
Oui, alors voilà, j'ai eu un peu ce sentiment aussi. Alors après, voilà, il y a quasiment l'ensemble des pays ont joué le jeu, hein, forcément. Alors plus ou moins, bien évidemment. Et voilà, je pense qu'on peut pousser bien plus avant la réflexion sur ce thème. Après, ça reste un événement très grand public, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Je pense que ça peut pas être quelque chose de non plus très pointu. Après, voilà, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié globalement, c'est déjà la diversité architecturale. On sent que chaque pavillon, chaque pays rivalise un petit peu pour sortir du lot, par son originalité, par des techniques nouvelles, par...
Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des pavillons de chaque pays ? Parce que c'est vrai que nous, qui ne nous sommes pas allés...
Alors voilà, donc on rentre dans l'expo. Bon, c'est un immense parc, hein, 110 hectares. Bon, c'est quelque chose d'immense. Donc on se retrouve dans un premier espace, on va dire, où il y a un pavillon zéro, très grand, où il y a un petit peu l'histoire de l'homme à travers justement sa nourriture, son alimentation, les divers produits de l'agriculture à travers le monde, avec des petites projections et des choses assez sympas. C'est un pavillon qu'il ne faut pas manquer. Et ensuite, donc, on est accueilli, il faut le dire aussi, par une espèce de... Moi, quand je suis rentrée, ça m'a fait penser un peu aux statues chinoises, là, cette fameuse armée avec des statues partout. Bon, il y a une trentaine de statues géantes qui reprennent un petit peu les personnages de l'artiste italien Arcimboldo. Voilà. Donc on passe ces statues et après on se retrouve devant une immense allée principale. Immense, elle doit faire, je ne sais pas, 100 mètres de large et plus d'un kilomètre de long. Et c'est le long de cette allée que sont installés tous les pavillons. Alors, ça a été fait en empruntant aux villes romaines, hein, puisque c'est l'avenue principale des villes romaines. Et l'Italie, qui est le pays organisateur de cette exposition, s'est réservé la rue perpendiculaire, hein, le Cardo, dans les villes romaines, pour mettre en valeur et son pavillon, mais autour de son pavillon, les restaurants italiens, les produits italiens... Bon, je pense que c'est le jeu, que le pays organisateur ait un espace un peu plus grand que les autres. Voilà. Et donc, dans cette allée, les choses sont parfois regroupées par thématiques. Donc, on trouve les pays du riz, les pays du cacao, les pays du café, par exemple. Les pays de la bio-méditerranée, par exemple, aussi. Et puis, des pavillons qui sont là tout seuls, comme le pavillon français, le pavillon israélien, le pavillon des États-Unis, le pavillon de la Russie, enfin, des tas d'autres qui sont là tout seuls, qui ne sont pas rattachés forcément à un thème.
Et alors, concernant le pavillon donc, de la France ?
Alors, un très beau pavillon. Moi, j'avoue que je n'hésite pas à faire un peu de chauvinisme. Je l'ai trouvé très réussi. C'est un pavillon tout en bois, un petit peu hexagonal de forme, si on le voit par-dessus. Tout en bois, démontable et en bois français. Donc, je pense que c'est un des pavillons les plus écolos, a-t-on écrit, en tout cas, de cette expo universelle, qui sera démontable et réutilisable. Il y a déjà des départements qui se sont portés candidats pour l'accueillir à son retour de Milan. Et quand on pénètre dans ce pavillon, alors déjà pour y pénétrer, on traverse un immense potager en extérieur, donc c'est plutôt sympathique. C'est un des charmes de cette exposition universelle, c'est d'avoir des grands paysages. Alors au pays du riz, bien évidemment, on traverse des rizières avant d'arriver au pavillon. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez vert, c'est assez... on a beau être au milieu de la foule, il y a quand même plein d'endroits de verdure assez sympathiques. Donc là, on traverse ce potager français. Ma foi, très bien entretenu, j'aimerais bien avoir le même jardinier à la maison. Et on pénètre dans ce pavillon qui est très aéré. Hein. C'est un pavillon qui n'est pas fermé, ça fait des espèces de voûtes. Et en fait, le spectacle se déroule au plafond. Ça fait des espèces d'immenses vagues avec des petites cases en bois. Et dans chaque case, on trouve les produits de l'agriculture française et les produits de l'excellence agroalimentaire française. Et donc, on circule au milieu de ce pavillon français, un peu le nez en l'air. C'est un petit peu le défaut, pas d'endroit où on peut se poser pour prendre le temps de regarder ça en détail. C'est vraiment, il y a une circulation et on ne s'arrête pas en gros, hein, on circule. Du coup, c'est un pavillon où on ne fait pas beaucoup la queue, puisque la queue est fluide. Mmh. Alors que d'autres pavillons, il y a parfois la queue jusqu'à 3 ou 4 heures. Donc il faut, si on veut vraiment voir un pays de ces pavillons où il y a la queue, il faut vraiment le prévoir et savoir qu'on va perdre du temps, qu'on ne verra rien d'autre pendant qu'on fait la queue.
Et en dehors de la France, quel coup de cœur, quel pavillon ?
Alors, j'ai pas tout vu. Hein. Mmh. Je conseille aux gens qui se rendent à l'expo, à l'entrée, on vend un faux passeport hein, qui imite les vrais passeports qu'on peut faire tamponner à chaque pavillon. Ça permet de savoir ce qu'on a fait. Et puis, c'est rigolo, ça amuse les enfants, puis ça amuse les adultes. Hein. J'avoue que moi, ça m'a bien amusé. On a des très beaux tampons de tous les pays. J'en ai fait une quarantaine sur les 145, hein, donc j'ai pas tout vu. De ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé les Émirats Arabes Unis et le Kazakhstan, qui sont deux pavillons où il y a une grosse queue, donc qui sont quand même qui font partie du top 10, hein, puisque la presse internationale a beaucoup écrit sur cette expo et qu'on peut trouver sur Internet divers top 10 de Milano 2015. Après, j'ai ces deux grands pavillons, à mon avis, qui ont coûté très cher, hein, avec des moyens techniques. Bon, on n'est pas très surpris du côté des Émirats Arabes Unis, hein, avec Dubaï à la fin qui accueillera l'Expo Universelle 2020. On est un peu plus surpris du côté du Kazakhstan, qui est un petit pays, qui n'a pas forcément les mêmes moyens, mais qui, là, pour le coup, a quand même sorti le grand jeu. Et c'est une très belle visite, hein, franchement, avec des choses très diverses. Et c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Après, voilà, il y a ces deux gros pavillons où j'ai beaucoup fait la queue pour rentrer. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, par exemple, la Tunisie, qui, avec des beaucoup plus petits moyens, a retranscrit une ambiance un peu berbère du désert et qui est très sympa. Beaucoup moins fastueuse, mais très sympa. C'est très sympa de voir que certains pays sont là avec des tout petits moyens. Il y a trois niveaux de pavillons, on va dire. Les pays d'Afrique, par exemple, ont des plutôt petits pavillons, mais ont assez bien joué le jeu avec des objets traditionnels, avec tout ce qu'on peut cultiver sur place, le mil, le sorgho, le blé. Enfin, voilà, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à faire des gros et des petits, et puis à se laisser un peu porter. Et je dirais un petit peu à aller vers des pays qu'on n'aurait pas forcément envie de découvrir et se forcer un peu la main, parce que je pense que forcément, on est convaincu de ceux dans lesquels on en rêve d'aller voyager et un peu moins des autres. Et je pense que faire l'effort d'aller vers ces autres-là, c'est une vraie découverte, justement.
Bon, donc, finalement...
Un bon moment.
Un bon moment.
Oui, un bon moment. Avec, faut surtout pas hésiter à regarder le programme du jour. Il y a des animations en permanence, des parades dans cette rue principale, des pavillons qui sont en fait telle journée. Moi, je suis tombée, c'était la journée de l'Éthiopie. Donc, au pavillon de l'Éthiopie, il y avait d'abord énormément d'Éthiopiens, en costume traditionnel, de la cuisine traditionnelle. Ils servaient le café. Enfin, c'était plutôt sympa, quoi.
Et j'ai entendu dire aussi que un peu sur le mode salon de l'agriculture, il y avait un peu le côté on se rue sur les produits et puis aussi la présence des marques,
de
grandes marques agroalimentaires.
Voilà. Il y a les grandes marques agroalimentaires. Alors notamment, bon, on est chez les Italiens, c'est sponsorisé par Ferrero, donc on a tous les coins de rue, on a un stand Ferrero, du Nutella, du Milky Way,
c'est le paradis quoi.
De l'huile de palme.
De l'huile de palme. Bon voilà. Alors après, effectivement, quand on revient à l'idée de ce thème principal, ça pose question. Il y a toutes les grandes marques italiennes, Pirelli. Alors, il y a un truc magnifique à ne surtout pas louper, c'est l'arbre de vie. L'aménagement d'un espèce de petit lac artificiel. Et il y a un arbre qui est tout en lumière et en fleurs. Et il y a un petit spectacle avec des jets d'eau, une très belle musique. Franchement, c'est un moment très poétique. C'est un moment où on se pose un peu, on sort un peu. C'est une espèce de petite bulle très agréable. C'est un spectacle qui revient toutes les demi-heures. C'est très facile à voir. Très différent la nuit, bien évidemment. Bon, c'est sponsorisé par Pirelli, donc voilà, il y a tout ça. Les pots d'arbres, ce sont des Fiat 500 qui ont été customisés. Enfin, et en même temps, ça montre toute cette diversité du monde. Moi, j'ai trouvé ça quand même bon. Voilà, il y a un côté un peu Disney parade, et puis bon, bien évidemment, Coca-Cola, un énorme pavillon. C'est pas un pays, c'est pas une organisation internationale. Ils ont un immense pavillon et il y a la queue. Une queue immense pour entrer chez Coca-Cola, c'est un truc... voilà, moi j'ai fui quand j'ai vu ça, mais voilà. Après, ça interroge voilà, sur ce thème, nourrir la planète. Ce que j'en retiendrai sur ce thème-là, ça m'a un peu marqué, c'était un peu rigolo, c'est que dans les pays qui sont un peu ressemblants aux nôtres, les pays d'Europe et de un peu occidentaux, ce qui était beaucoup mis en avant, qui est revenu sur plusieurs pavillons que j'ai pu visiter, c'est la pomme. Ça m'a fait rire, je me suis dit, c'est un peu peut-être le fruit de demain, qui était déjà le fruit d'hier, le fruit du péché, donc c'est assez rigolo. Et dans les pays un peu plus arides, un peu plus difficiles, on retrouve le riz, donc bien sûr, un peu partout, et la datte. La datte revient dans de nombreux pays et était mise en avant, c'était un peu rigolo. Donc voilà, moi je reviens avec ce tiercé de l'alimentation de demain, le riz, la datte, la pomme, voilà, c'est peut-être le repas du 21e et du 22e siècle.
Bien, merci Caro de nous avoir partagé cette expérience milanaise.
Avec plaisir.
Et qu'est-ce que
je peux quand même dire que je suis partie parce que la Lozère avait la chance d'être présente pendant 15 jours à Milan, invitée par une association italienne. Il y a un espace qui est réservé à la société civile. Les Italiens tenaient beaucoup apparemment à ce petit cadre-là. Alors c'est bien sûr un minuscule pavillon par rapport au reste. Et donc, la Lozère, il y avait un petit espace. Mais c'était un espace un petit peu comme l'arbre de vie, un moment un petit peu à part du flux de cette allée principale. Et donc, un endroit un peu agréable où les gens, visiblement, prenaient le temps de passer. Il y avait des artisans d'art de Lozère qui avaient exposé de très, très belles pièces. Et je pense que, je ne sais pas s'ils ont eu un dixième ou ne serait-ce qu'un vingtième des visiteurs quotidiens. En tout cas, ça fait quand même des milliers de personnes qui ont pu apprécier ça, avec bien évidemment de la promotion touristique pour le département. Et puis, tu le disais, il y a eu une dégustation de produits lozériens. Alors, un peu à la mode salon de l'agriculture, mais en même temps, il y a très peu de choses qui sont offertes, hein. Tout est à vendre, il y a beaucoup d'espaces restauration, les choses sont assez chères d'ailleurs. Donc la dégustation, c'était assez drôle, parce que les gens qui sont venus voir préparer par les chefs du pavillon français, hein, ça se passe devant le pavillon français, cette histoire, les gens ne savaient pas que ça allait être gratuit derrière. mais étaient quand même là et ont apprécié de devoir préparer les choses. Et à la limite, étaient prêts à sortir leurs pièces pour déguster la verrine. Ou, et vraiment, on a eu que des bons échos. On a discuté à la fin. Moi, j'ai discuté avec un monsieur du sultanat d'Oman qui était là en tenue traditionnelle et que sa femme tirait en disant « Allez, on y va » et tout. Et lui disait « Non, non, je veux déguster la petite verrine. Là, ça a l'air trop bon. » C'était assez drôle, quoi, cette rencontre des cultures. Et,
Bon, ben voilà.
Voilà.
C'était un peu ton sommet du bonheur.
C'est ça.
C'était un peu mon sommet du bonheur, ouais, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter, Caroline ?
Alors, on va rester un petit peu en Italie quand même. Alors, je dois dire, pour finir quand même, que les Italiens sont charmants. Alors, il paraît que ça tient beaucoup aux Italiens du Nord, mais j'étais partie avec un gros préjugé en me disant « ça va être un bordel monstre ». Ils ont été hyper disciplinés et les plus indisciplinés, c'était nous, les Français. Je dois le dire quand même et le reconnaître parce que franchement, ça m'a épaté. Donc, pour rester dans le thème, eh ben, j'ai choisi Paolo Conte.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful. Grab a few chips, chips. Da-di-do-di-do-chi-bum-chi-bum-bum. Da-di-do-di-do-chi-bum-chi-bum-bum. Da-di-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-di-do-di-do. Questo amore è buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Grab a few chips, chips. Da-di-do-di-do, chibum, chibum, bum.
C'est quand même une belle chanson du bonheur, non, Guillaume ?
Ah bah oui, c'est pas mal. Hein. It's wonderful.
Faut l'envoyer au monsieur néerlandais, là.
Anne-Marie, c'est le moment jeu ?
Oui, alors on joue.
On se passera du petit jingle.
Ça va être toutes les émissions comme ça, Guillaume ? On
non,
va jouer tout
non,
le temps ?
Non, 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 on va pas jouer tout le temps.
Bah déjà, on va jouer peut-être jusqu'au 8, puisque en tout cas, c'est le 8 octobre. Hein.
On jouera que dans l'actuel et lui ou on
Non,
joue
non,
tout
on,
le
joue
temps
aussi dans, on jouera aussi demain dans la lorgnette, où vous pourrez aussi gagner des places pour ce même spectacle.
Parfait. Oui, alors un spectacle hein, qui aura donc lieu le jeudi 8 octobre à 14h45 et à 20h30, Caroline, où ça
à Halle, Saint-Jean-de-Mende.
Voilà.
Des Folies, Berchère.
Berchère.
Exactement. Donc, dernière question, Guillaume.
Sur les réseaux sociaux, les réponses et sur redac@48fm.org.
Prenez note, dans quelle ville des États-Unis les danseuses du Moulin Rouge ont-elles croisé le lundi 28 septembre François Hollande ? Était-ce à New York ? À Los Angeles ou à Malibu.
C'est le jour où il a fait son discours à l'ONU pour aider un petit peu nos auditeurs.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Après Barack Obama et Poutine.
Exactement. Et, allez. Et François Hollande a effectivement donc rencontré les danseuses du Moulin Rouge. Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
C'est donc maintenant le moment, avant la fin de cette émission, de parler de ce qu'il faut préciser, que, dont l'abus est dangereux pour la santé. Hein, voilà, c'est ça.
Mais qu'une petite goutte ne fait pas de mal.
Tout à fait. Donc un petit rosé qui a gagné le prix des journalistes féminines voilà. De Languedoc-Roussillon.
Alors, qui a eu le coup de cœur des femmes de journalistes. Mais qui est déjà oui. Une médaille d'or de la coopération du Languedoc-Roussillon, hein, puisque à ce concours des femmes journalistes ne sont présentées que les médailles d'or du concours de la coopération. Et donc ce petit rosé, qui est un grand, c'est le M des vignobles de Montagnac, un petit rosé Syrah, qui, ma foi, est pas mal. Hein. Moi, je n'avais pas dégusté ça, j'avais dégusté à la table des Blancs, donc je ne l'avais pas découvert, mais... je le trouve pas mal. C'est un IGP, donc Syrah, de 2014, un vin qui est labellisé Sud de France.
Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais en boire un petit peu pour l'apéro ou pour le repas, c'est toujours très sympa.
Voilà, puis je vous l'avais dit, donc, puisque j'avais promis de l'amener lors de cette chronique, pour moi, le rosé est synonyme d'été. J'ai un peu la méthode Coué en ce moment pour que ça dure un peu, parce que c'est quand même très agréable.
Il y a le soleil, mais pas tout à fait la chaleur
de l'été. Et il y a la noix
de
coco. Voilà. Le lait de coco, n'est-ce
voilà,
pas?
Voilà, je crois ça. Qu'avec Anne-Marie, on vous a un peu la même méthode.
Coco, hein, ouais. Et vous buvez du rosé.
C'est ça, et c'est le bonheur.
Et c'est le bonheur. Bien, ben voilà, on va vous souhaiter en tous les cas une bonne quinzaine. Merci de nous être fidèles.
Vous pouvez nous retrouver...
toujours dans la rediffusion du mardi à 19h. Voilà, c'est
tout
nouveau.
Rond.
Et puis, bah, bien sûr, vous pouvez nous retrouver également sur 48fm.org.
N'hésitez pas.
À bientôt.
À bientôt.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.